15h, 16h,
son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1. On essaye de vous éclairer, de vous informer sur les sujets qui vous préoccupent. Et justement, pour répondre à toutes vos questions sans aucun tabou, il est à mes côtés dans le studio tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, au programme du jour, dans notre grand dossier, on a pris la Saint-Valentin un peu à contre-pied puisque on vous explique pourquoi se prendre des râteaux, des vestes en amour, c'est finalement une très bonne technique pour finir par trouver l'amour. Et pour en parler, on a donc invité celle qui a inventé la théorie de la veste. On recevra Annabelle Roberts, elle est coach en communication et spécialiste de la prise de parole en public. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une bactérie qui est responsable de graves pneumonies. Alors, rien à voir avec le coronavirus. Il fera le point sur l'augmentation des cas de légionellose. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, à la veille de la journée mondiale contre les cancers de l'enfant, on fera un focus sur les massages magiques qui peuvent faire des miracles pour ces petits patients, on vous dira tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question d'une inégalité entre hommes et femmes et de la capacité de ces dernières à jouir parfois plusieurs fois durant l'acte sexuel.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Manu, 47 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'entends souvent dans votre émission que j'écoute très régulièrement que les diabétiques doivent prendre soin de leurs pieds. Et en fait, voilà, je me pose la question à savoir qu'est-ce que ça veut dire et voilà pourquoi les diabétiques doivent prendre soin de leurs pieds. Merci pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Jimmy, c'est vrai, les pieds des diabétiques doivent être particulièrement surveillés, dont on doit prendre soin. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, un diabète mal équilibré peut avoir plusieurs atteintes, plusieurs problèmes. Le premier, c'est une atteinte de la microcirculation sanguine, les petites artères qui nourrissent les vaisseaux du pied. Et puis, au niveau de la sensibilité, ce qu'on appelle la neuropathie, dont on va parler ensuite. Ce qui veut donc dire que le chaud, le froid, la douleur sont moins bien perçus par le patient qui a un diabète. Et par conséquent, lorsqu'il se blesse, lorsqu'il a un corps au pied, une petite ampoule, il ne va pas s'en rendre compte. La plaie va évoluer et comme en plus il y a une sensibilité à certaines infections, ça peut évoluer vers ce qu'on appelle une ostéite, une infection grave du pied. Donc le pied diabétique est un pied très particulier dont il faut prendre soin.
Justement, s'ils n'en prennent pas soin, les diabétiques en réalité, ils risquent quoi comme complications? Alors vous avez un petit peu commencé à nous expliquer ça, mais précisez-nous un peu.
Alors, lorsqu'ils ne prennent pas de soin de leur diabète, ils peuvent avoir de la neuropathie. C'est pour ça qu'on veut un diabète bien équilibré. Le diabète mal équilibré conduit à la neuropathie diabétique, ce qui veut donc dire que le sucre va attaquer les petits nerfs au niveau du pied. Et à partir de ce moment-là, on a une perte de sensibilité et ça entraîne les lésions plus sévères pour un simple bobo. On se retrouve avec une infection grave. Chaque année, le médecin, normalement, doit examiner vos pieds, ou en tout cas le plus régulièrement possible, ce qui lui permet de tester cette neuropathie pour voir si vous êtes sensible ou pas. Il vous fait des tests avec du chaud, du froid, il touche, il pique et il permet de calculer un petit score, qu'on a un score qui va de 0 à 3. Et en fonction du score, on peut prescrire des soins de pédicure podologue chez les patients qui ont un grade 2 ou un grade 3.
Et c'est pris en charge ces soins de pédicurie chez les diabétiques?
Oui, lorsqu'elles sont prescrites, donc sur prescription médicale, on peut faire 4 séances par an remboursées lorsqu'on est à un grade 2 et 6 séances pour le grade 3. Les soins de pédicure ou de podologue peuvent être faits à domicile ou sur place.
Très bien. Et donc, à la maison, par contre, est-ce qu'il y a des soins qu'on peut faire soi-même? Alors, vous avez parlé de la pédicurie, mais chez soi, il faut en prendre soin aussi, j'imagine.
Oui, il faut prendre soin de ses pieds, bien se les laver tous les jours, bien les sécher. On évite les bains trop longs. On coupe les ongles de façon carrée avec des angles. On évite de les couper à ras pour éviter que les gens ne se blessent. Et puis, si jamais on a.
Et éviter les ongles incarnés aussi, chez les diabétiques particulièrement, bien sûr.
Et donc, du coup, le pédicure podologue pour prendre en charge. Et puis, si jamais vous avez une plaie, on ne la laisse pas traîner, même si elle ne le fait pas mal, il faut consulter.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Sophie, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Quand j'ai mes règles, je souffre de maux de tête assez intenses. Pourtant c'est pas quelque chose dont je suis coutumière. Donc je me demandais si j'étais sujette aux migraines ou pas du tout. Merci d'avance, au revoir.
La migraine, effectivement, c'était notre grand dossier du jour mardi dans son rendez-vous. On a parlé de tous les traitements, notamment à la disposition des patients aujourd'hui. Alors si vous l'avez raté et que le sujet vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à aller réécouter le podcast de cette émission sur Europe1.fr. Et donc, pour répondre à la question, à cette question, on a préféré demander ce qu'il en pensait à celui qui était sur notre plateau mardi. C'est le neurologue Dominique Valade. Peut-il donc y avoir des crises de migraine liées aux règles? On écoute sa réponse.
Il est probable qu'elle soit migraineuse, même pratiquement sûre. Ce sont des migraines menstruelles et elle a généralement dû à la chute brutale des œstrogènes lors de ses règles. C'est une crise de migraine qui survient à ce moment-là. Ça se soigne très bien. Souvent, ce sont les gynécos d'ailleurs qui donnent des pilules particulières qui arrêtent les règles et ce qui fait qu'on n'a plus de crise à ce moment-là. C'est fréquent qu'on ait des migraines menstruelles. Très souvent, on a des migraines menstruelles et des migraines à d'autres moments.
Voilà pour la réponse du docteur Valade. Alors Jimmy, juste pour terminer, quelques petites astuces peut-être non médicamenteuses pour limiter les crises de migraines.
Oui, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable, il nous avait expliqué, toute l'année, tous les jours, même en vacances. Ouais. C'est-à-dire se coucher à la même heure, dormir suffisamment. On ne fait pas de grasse matinée, on mange toujours à la même heure, on évite les fringales. Toujours avoir une petite pomme dans la poche, un petit encas. Et donc, pour avoir moins de migraines, il faut avoir ce mode de vie. Ça permettrait de réduire de 50% le risque de migraine. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout si vous êtes résistant au traitement, même si c'est un peu contraignant, il faut reconnaître.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Sophie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une bactérie qui fait de plus en plus de dégâts, la légionellose. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, c'est Annabelle Roberts, coach en communication. Avec elle, on va apprendre à se prendre des vestes en amour pour arriver à trouver l'âme sœur. On vous donnera plein de conseils, surtout pour ceux qui n'ont pas encore de Valentin ou de Valentine aujourd'hui. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée Annabelle Roberts, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous allez nous parler d'une bactérie qui cause des pneumonies graves. Alors c'est pas le coronavirus, c'est la légionellose. D'ailleurs le coronavirus c'est un virus, c'est pas une bactérie. D'ailleurs début février, une femme de 71 ans a été débarquée d'une croisière à Marseille dans un état grave. Elle souffrait de cette bactérie dont le nombre de cas est en forte augmentation depuis 2017. D'où nous vient ce nom de légionellose d'abord ?
Alors, l'histoire, elle est intéressante. C'est juillet 1976, 58e congrès de l'American Legion, un congrès d'anciens combattants de l'armée américaine qui se tient du 21 au 24 juillet à Philadelphie dans un très bel hôtel qui s'appelle l'hôtel Bellevue Stratford.
Pourquoi vous nous donnez les dates ?
C'est très important parce que, d'accord. En fait, ce très bel hôtel...
C'est vieux, hein ?
Oui, c'est vieux, mais en fait, ce bel hôtel avait un problème de climatisation. Cette clim datait de 1954 et la personne, le jeune homme qui était censé la réparer, la contrôler, l'améliorer, est tombé malade bizarrement la veille de la convention. Il avait des maux de tête, des courbatures. Deux jours après le début de la convention, on a des légionnaires qui commencent à être malades et les organisateurs, à la fin du congrès, une bonne partie des légionnaires sont malades et sont cloués au lit. On arrive avec un bilan assez catastrophique de 182 cas, dont 29 décès.
Ah oui, quand même.
Pendant l'intervalle, une call girl qui avait été demandée sur place est tombée malade et celle-ci était allergique à la pénicilline et donc on l'a traitée avec une famille d'antibiotiques qu'on appelle les macrolides. Macrolides qui traitent cette légionellose. Sauf qu'à l'époque, on ne le savait pas. Il a fallu attendre le mois de décembre pour qu'un médecin se rende compte qu'on a découvert cette nouvelle bactérie qu'on a décidé d'appeler Legionella pneumophila, une bactérie des légionnaires qui donnent des pneumopathies.
Ah, au moins, on a compris le nom, effectivement, avec cette petite histoire. Alors, comment on l'attrape, cette bactérie ?
Alors, les légionelles, c'est un groupe de plusieurs bactéries qui sont présentes à l'état naturel dans les eaux douces, dans les lacs et dans les rivières et les sols humides. Sauf qu'à partir du milieu naturel, la bactérie peut coloniser les installations qui offrent des conditions favorables à leur développement. C'est pour ça qu'on peut l'attraper dans des circuits d'eau chaude qui ont été mal traités. Et donc, la contamination se fait par voie respiratoire, par l'inhalation d'eau contaminée diffusée en aérosol.
Et elle entraîne donc des pneumonies qui sont vraiment plutôt graves. Hein.
Exactement, elle entraîne des pneumopathies, des pneumonies qui sont très graves. L'immense majorité des cas sont hospitalisés et c'est une maladie à déclaration obligatoire, d'autant plus que la mortalité est très élevée, elle est de 15%.
Ah oui, quand même.
Elle est de 30% pour les gens qui sont immunodéprimés. Et donc, c'est une maladie qui a une période d'incubation de 2 à 10 jours. Ça commence par un espèce de syndrome grippal un peu bizarre, avec des maux de tête, de la fièvre, des courbatures. Et puis, on a 42 fièvres en plateau. Une toux, pas forcément très importante, et surtout des signes digestifs qui peuvent entraîner un retard de diagnostic, car on peut avoir des douleurs abdominales, de la diarrhée.
On prend ça pour une gastro, alors
exactement.
Ça n'a rien à voir, d'accord.
Sauf qu'on peut avoir ensuite des signes neurologiques avec une confusion, des hallucinations, et ça peut entraîner un coma. Rassurez-vous, dans 3/4 des cas, c'est des personnes qui sont plutôt immunodéprimées, donc des personnes fragiles, En revanche, 50% des gens sont fumeurs car en fait les micro-lésions créées par le tabac entraînent une contamination plus facile de cette légionellose.
Bon, ça a l'air quand même très grave tout ça, Jimmy. Et le nombre de cas de ces légionelloses donc, est en augmentation en France.
Eh oui, en 2018, plus 31% de légionelles par rapport à l'année d'avant. Et c'est au mois de juin que les contaminations sont les plus fréquentes. L'une des hypothèses, c'est l'influence de la météo avec les températures et les précipitations qui sont plus élevées, sachant que l'immense majorité des cas est finalement pas très bien compris. Ce qu'on peut donc proposer aux gens, c'est lorsque, comme on sait que c'est des circuits d'eau qui peuvent être contaminés, si vous allez dans un camping qui n'a pas été utilisé depuis au moins un an, puisqu'il ouvre en été, c'est de laisser couler l'eau chaude pendant 5 à 6 minutes et ensuite on peut se mettre sous la douche sans prendre de risque.
On évacue la légionellose comme ça, comme ça, très bien. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils et donc tout de suite nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est Annabelle Roberts, elle est coach en communication, spécialiste de la prise de parole en public et elle est l'auteur donc de la théorie de la veste chez Flammarion.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Contente de vous retrouver une nouvelle fois sur ce plateau. Vous étiez venue il y a à peu près un mois nous parler de la théorie de la veste dans le milieu professionnel. Un petit mot peut-être pour nous rappeler ce que c'est la théorie de la veste globalement, parce qu'on peut voir l'appliquer ensuite au sentimental, mais c'est quoi?
C'est une méthode simple pour aider des gens à oser, parce que je trouve que allez-y, oser, c'est tellement abstrait, c'est tellement dur à faire. Donc un peu comme un régime, allez-y perdre du poids, c'est plus facile si vous faites du camp ou peu importe votre méthode. Je voulais une espèce de méthode pour aider des gens à oser, dans 3 étapes simples.
D'accord. Bon, et là, du coup, c'est la Saint-Valentin. Il faut oser, du coup, se prendre une veste en amour aussi, c'est ça? C'est pas trop dur?
Oui, il faut. Et oui, c'est dur, mais c'est en devenant confortable avec cet sentiment qui nous fait si peur que peut-être on va trouver l'âme sœur.
Et on a très peur vraiment ça. Là. Bon, on est aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Valentin, il y a des cœurs partout, l'amour, on ne parle que de ça aujourd'hui. Mais d'une façon générale, on a très peur de l'échec amoureux, plus que l'échec professionnel ou pas?
Selon moi, je pense que la réponse est oui. Et dans les différentes discussions que j'ai pu avoir pour écrire le bouquin, oui, parce que quand on subit en quelque sorte un rejet ou une veste professionnelle, on peut se dire que le timing n'est pas bon, ou l'offre n'est pas bon, ou peut-être les savoir-faire que j'ai à ce moment précis ne correspondent pas. Mais quand on reçoit une veste en amour, là, c'est beaucoup plus dur.
Soit je suis moche, soit je ne sais pas, je ne suis pas comme il faut.
On aura plus la tentation de dire que moi, je ne suis pas bon. Donc, il ne faut pas penser comme ça, mais les vestes en amour, ça peut donner ça, ouais.
Merci beaucoup, Annabelle Roberts. On ne fait que commencer cet entretien, bien sûr. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue la chasse à l'âme sœur, ou même juste au plan d'un soir, si c'est ce que vous recherchez en ce moment. Notre invitée Annabelle Roberts va nous expliquer comment se prendre des râteaux, des vestes sentimentales, comment tout cela peut nous faire finalement atteindre cet objectif sentimental. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, Annabelle Roberts. Vous êtes notamment coach en communication et l'auteur de la théorie de la veste chez Flammarion. Alors Annabelle, votre théorie de la veste, elle fonctionne, donc vous nous l'avez dit, aussi bien dans le milieu professionnel qu'en amour. Ça veut dire qu'affronter ses peurs, et ça nous aide à devenir plus fort. Donc là, c'est se prendre des râteaux, en l'occurrence, en amour. Mais est-ce qu'avec l'âge, quand même, imaginons, on a 60 ans, on est toujours célibataire, on a peut-être moins peur de se prendre des râteaux à cet âge-là, on mûrit de ce côté-là ou pas?
Je pense pas, je pense que le rejet c'est quelque chose qui nous fait peur à tout âge et ce peur de rejet, en fait, c'est ça ce qu'il faut affronter si vous avez vraiment envie de faire, comme vous dites, une histoire d'un soir, d'un vie, peu importe l'histoire que vous cherchez. Et parce que finalement, le rejet, qu'est-ce que c'est? C'est juste un sentiment désagréable. C'est un petit sentiment désagréable que vous sentez. Ça tue pas, la honte ne tue pas, le non, ça tue pas. Et donc, devenir confortable avec ce sentiment, c'est ça ce que c'est l'entraînement de se prendre des vestes.
Jimmy?
Et dans le livre, vous parlez aussi de votre mari, c'est pour ça qu'on se permet de parler de lui. Et lui, apparemment, donc, n'a pas eu beaucoup d'histoires d'amour car il n'osait pas. Mais il a quand même fini par vous trouver.
Ouais, et pour la petite histoire, le soir où il a fait sa déclaration, il a commencé sa déclaration en me racontant toute l'histoire d'une autre nana. qu'il a pas osé.
C'est pas une très bonne idée, ça.
Et donc il a dit, mais avec toi, je fais pas la même coup. Hop, et il m'a embrassé. Donc j'ai dit bon.
Vous avez été séduite finalement par un mec qui vous parlait d'une autre.
Moi, j'ai trouvé ça tellement mignon et tellement sincère que je pouvais pas. Je ne pouvais pas les refuser.
Bon, il ne connaissait pas votre théorie de la veste, mais en tout cas, ça a été heureusement concluant pour lui. Alors, vous l'avez compris, vous qui nous écoutez, Annabelle Roberts, elle n'est pas née en France, elle vient du Canada. C'est quoi la différence entre nos deux pays du point de vue, on va dire, amoureux? Comment on aborde les relations sentimentales? Pareil ou c'est très différent?
Non, c'est un peu différent quand même. C'est une chose que j'appréciais beaucoup dans mon pays natal, c'est que la drague, ce n'est pas un truc de mec, en fait. Donc, c'est quelque chose dont les femmes vont beaucoup draguer les hommes. Une femme, elle ne va pas attendre qu'un homme lui demande de boire
un verre. Ne dis pas trop, parce que là, tous les Français vont immigrer au Canada pour aller...
Et vraiment, les Français que je connais au Canada sont choqués d'avoir des femmes qui viennent lui dire « Écoutez, je vous trouve très beau, est-ce que ça vous dit de boire un verre avec moi ?»
Jimmy, vous rêvez là hein, vous
dites, non,
maintenant
tout,
vous êtes casé, mais
oui,
vous n'avez pas vu beaucoup des femmes qui sont venues vous dire ça en France.
Non, aucune, à part...
Et il ne faut pas oublier que l'harcèlement sexuel, l'harcèlement de la rue, c'est vraiment pas accepté au Canada. Je sais qu'on commence à lutter contre ça ici en France, mais au Canada, ça fait longtemps que ce n'est juste pas du tout admissible. Donc les hommes n'osent pas, en quelque sorte par respect, en fait, de faire une gaffe. Donc les femmes draguent beaucoup plus au Canada, ouais.
Ah oui, parce qu'ici finalement il y a une espèce de pression de la drague masculine, quoi. La drague c'est les mecs, quoi. C'est ça en France?
Bah j'ai l'impression que ça s'est fait comme ça. Heureusement que ça va de mieux en mieux. Mais en tout cas, moi je trouve ça assez libérateur autant que femme de pouvoir draguer comme j'ai envie, quoi.
Jimmy,
est-ce qu'on peut essayer de trouver l'amour comme une forme de défi, comme si on essaie de trouver un nouvel emploi, un nouveau job? Même si, effectivement, les enjeux sont parfois un peu moins importants.
Ben moi, je pense qu'il faut. Moi, je suis une fan, évidemment, de forcer le destin. Et quand on a tous un ami qui a 35, 37, 38 ans, toujours célibataire, pas possible de trouver l'âme sœur. Et moi, je pense qu'il faut forcer le destin. Et c'est pour ça que dans le livre, je parle de pratiquer la théorie de la veste, même en amour. Donc, le but, c'est de vous fixer un quota de veste à prendre tous les jours, c'est peut-être un peu violent, mais moi, je vous conseille, par exemple, 2 par semaine. Donc, on va prendre ma copine Joanne. Okay, c'est vraiment ma grande copine, 37 ans, belle comme une cœur, tellement jolie, tellement douée, célibataire. Okay, et donc moi j'ai dit, cocotte, on va pratiquer la théorie de la veste. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est 2 fois par semaine, tu vas essayer de draguer carrément des hommes qui, dans ta tête, tu dis non, c'est pas possible,
il n'est pas pour moi,
ok, je lui dis super, on va faire une tentative de veste. Okay, déjà, on s'entraîne pour ne plus avoir peur de ce sentiment d'oser. Deuxième chose, c'est que si jamais c'est un oui, tu vas juste avoir le date le plus hot de ta life, ok? C'est super.
Et ça a marché pour elle? Elle le fait? Elle l'a mis en pratique?
Bah, depuis quelques jours, donc donnez-nous du temps.
On va attendre pour les résultats. Merci beaucoup Annabelle. On n'en a pas terminé, on reviendra sur l'histoire de votre copine juste après et de votre méthode évidemment pour trouver l'amour. Bien sûr, on reste encore ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on poursuit notre quête de l'âme sœur ou même de votre prochain plan d'un soir. Chacun fait comme il veut, bien sûr. En tout cas, nous, on vous propose une technique un peu contre-intuitive aujourd'hui pour y arriver. La théorie de la veste, enchaîner les râteaux finalement pour finir par s'épanouir en amour. On va tout vous expliquer. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous Annabelle Roberts. Vous êtes coach en communication et spécialiste de la prise de parole en public. Alors avec vous aujourd'hui, on détaille un peu votre théorie de la veste du point de vue sentimental. Dans la pratique, donc, vous nous conseillez de nous prendre des râteaux. Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de votre copine Joanne. Donc par exemple, vous êtes allé dans un bar avec elle il y a 2 jours. Et donc, elle s'est pris un râteau, hein, c'est ça?
Oui. Et donc, la théorie de la veste, c'est de se fixer un quota de veste pour que vous puissiez affronter à vos peurs de prendre des râteaux. Et ensuite, il faut toujours avoir son copain ou sa copine de la loose. Donc, moi, je suis la copine de la loose de Joanne. Et moi, j'ai 2 jobs en tant que copine de la loose. Le premier, c'est de le féliciter dans sa loose. De lui féliciter d'avoir pris des râteaux parce qu'elle a osé là où plein d'autres n'auraient pas osé. Et deuxièmement, de voir avec elle quelles sont les leçons qui se cachent dans cette loose. Qu'est-ce qu'on a appris pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions affiner nos techniques de drague pour être encore plus performants.
Jimmy ?
Et du coup, est-ce qu'on peut, par exemple, alors bon, Bon, un exemple tout simple. Moi, je me considérais à l'époque comme un 6,5 sur 10.
Jimmy, attends.
Voilà, 6,5 sur 10, je me voyais comme ça. Okay. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais ouais. Ça...
Allez, mettons 6,5 sur 10 pour Jimmy.
Et moi, à l'époque, je me suis dit, tiens, ma femme, quand je l'ai rencontrée, je la voyais comme un 9 ou un 10. Est-ce qu'il faut toujours viser plus haut, de se dire, moi, je suis un 6, je vise un 6, ou peut-être un 5, en se disant, on ne va pas viser trop haut et trop compliqué pour essayer de ne pas se prendre de râteau.
Bon, déjà, Jimmy, vous êtes facilement un 9.
Wow, trop sympa. Il a fait exprès juste pour se faire des compliments. Allez, bon, 9 pour Jimmy, d'accord. Okay.
Et déjà, il faut s'écouter les autres. Donc, on est toujours le critique le plus dur sur soi-même, d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est important de pratiquer la théorie de la veste, parce qu'il faut juste viser la lune.
Toujours.
Vous rentrez dans un bar et vous trouvez le mec le plus beau que
vous
avez
jamais...
Ou la
nana la plus belle. Hein.
Ou la plus beau, ou peu importe. Votre préférence, que le plus beau que vous ayez jamais vu, etc. Par principe, il faut demander à cette personne-là si vous pouvez leur acheter un verre, boire un verre avec eux, parce que si jamais c'est un oui, ok. Donc, c'est pour répondre à votre question un peu à côté, je pense que il faut, bon, c'est le jour de la Valentin, on peut le dire, écouter votre cœur.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est l'idée avec votre théorie, c'est que c'est pas mal. Si c'est pas concluant, c'est une victoire, en fait. Si c'est un râteau, c'est mieux.
C'est ça.
La prochaine fois, ça
marchera. Parce que comme on a un quota, on prend un râteau, bah, vous pouvez dire, bah, je suis performante, j'ai rempli mon quota. J'ai fixé un quota de 2 par semaine. Là, j'en ai pris 3. Je suis carrément surperformante. Okay, et comme vous fêtez ça avec votre copine de la loose, vous changez le don, vous changez la relation que vous avez avec l'échec. Donc, on boit des coups, on rigole, on est en train de passer un bon moment par rapport à le fait qu'elle vient de se faire rejeter. Ça monte la confiance. Ça vous laisse pas au fond de votre loose en disant, oh, mais je vais jamais trouver quelqu'un, machin. Mais non, c'est si vous losez, vous fêtez ça avec votre copine de la loose.
Jimmy, vous en avez fêté des râteaux, vous pouvez en parler. Pardon, je rigole.
Une autre fois peut-être pour une autre émission. Et vous dites, en tout cas, c'est très intéressant qu'une étude a prouvé que la chose la plus attirante chez une personne, c'est pas forcément sa beauté ni son physique, mais sa confiance en soi.
Exact.
Avoir de la confiance et donc se prendre des râteaux, bah, c'est pas si mal. Alors.
Donc en fait, c'est Estelle Perrer qui a dit ça, qui est une sexologue et une thérapeute pareille, qui a écrit L'intelligence érotique, je pense que ça s'appelle son livre. Elle est tellement inspirante, cette femme. Et elle a étudié avec ses collègues et ses équipes qu'est-ce qui attire l'autre, qu'est-ce qui crée l'attirance. Et finalement, c'est pas ce qu'on peut penser, hein. C'est pas, je sais pas, des jolis cheveux, des beaux seins, peu importe. C'est la confiance que l'autre a en soi. En anglais, on dit ça « to be in my element », être dans son élément. Je vous donne un exemple. Mon mari est journaliste. Il a 15 ans plus que moi, donc il a un autre niveau de sa carrière et il adore la radio, pour vous dire. Et donc, il m'entend faire tous ces plateaux radio, etc. Il voit que mon bouquin réussit, que je fais de la radio, etc. Je vous dis que notre sex life n'a jamais été aussi hot, hein, parce que...
on saura tout, au moins. Hein,
je suis plus vieille que quand il m'a rencontrée, je suis plus fatiguée, je suis plus grosse, mais il me voit dans mon élément et ça lui attire.
Ah, c'est ça, et ça marche pour tout le monde. Donc, se prendre des râteaux, on gagne de la confiance, parce que c'est ça votre théorie. À force de prendre 2 râteaux par semaine, par exemple, on se dit, bon, bah, je l'ai fêté, donc je prends confiance en moi et j'en prends encore. Puis si un jour c'est concluant.
Et surtout de, surtout de voir que ça tue pas, en fait. Que même ça rend plus fort, ça veut dire que je peux demander à le mec le plus beau de tout le bar de sortir avec moi et il me dit non et je reste heureuse parce que je fais ça avec ma copine de la loose.
C'est ça. Jimmy ?
Votre théorie de la veste, j'imagine qu'il faut quand même se forcer. D'ailleurs, j'ai commencé à la pratiquer il n'y a pas très longtemps, dans un restaurant où il n'y avait aucune place, zéro. Oui. Et je voulais absolument amener ce qu'il y avait les enfants. Et ils m'ont dit, non, mais il n'y a pas de place. Et j'ai insisté en disant, mais on ne sait jamais, si jamais vous avez quelqu'un qui ne vient pas, appelez-moi. Et ils ont dit, non. Je dis, mais moi, ça ne me coûte rien de vous demander. Ils m'ont dit, oui, vous avez raison, qui ne tente rien à rien. Bon, ils ne m'ont pas rappelé, je n'ai pas eu la place au restaurant.
C'est
mais
une veste, voilà.
Mais, voilà, mais du coup, il faut quand même se forcer parce que c'est quelque chose, moi, qui, voilà, qui
est pas
un
naturel,
peu contre-naturel.
Quoi.
Ouais. Faut quand même y aller.
Bah oui, il faut quand même y aller. Je vais dire qu'il y a plein de choses dans la vie qui ne sont pas naturelles, mais si on les fait, on est mieux. Hein. Franchement, ce n'est pas très naturel de se mettre un déo ou de mettre des chaussures, hein, mais on est mieux dedans.
C'est vrai. Bon exemple, je trouve. Alors bon, passons en pratique quand même. Parce que vous avez expliqué votre copine Joanne, vous avez été dans un bar et vous lui avez dit, allez, tu vas draguer celui-là, là, c'est le plus beau. Enfin, il est pas, il a, tu as l'impression qu'il est mieux que toi, il ne l'est pas, vas-y. Ça passe comment concrètement? Est-ce que je peux me faire des théories de la veste, des vestes, des lots de vestes, on va dire, au travail, ou ça craint quand même de le faire sur son lieu de travail? D'essayer de se prendre des râteaux au boulot, ça craint un peu peut-être, non?
Bah écoutez, j'ai quand même l'impression que c'est le plateau de l'anglais aujourd'hui, donc autant y aller jusqu'au bout. Mais on a une expression en anglais qui est « don't shit where you eat ». Ça veut dire qu'on ne fait pas de bêtises là où on travaille. Hein. Ouais. Là où vous gagnez le pain...
On se tient à carreau.
Voilà.
Il vaut mieux aller dans des bars. C'est quoi vos spots préférés pour aller se prendre des râteaux, donner des conseils à ceux qui n'ont pas de Valentin ce soir ou de Valentine?
Bah écoutez, comme un bon génération Y, j'ai envie de vous dire sur mon iPhone. Hein. Enfin, pas mon iPhone, parce que je suis très heureux avec Cédric. S'il m'écoute, je t'aime pour toujours, chérie.
Sur les applications, les chats de rencontre,
ouais,
des choses comme ça.
Et justement, quand je coach Joanne, ma copine de la loose...
On aurait bien parlé de Joanne. On la salue, Joanne, d'ailleurs.
Ouais. Ce qu'on fait, c'est que sur son application téléphone, les mecs qui sont genre... Elle dit je sais pas, je pense pas qu'il est pour lui. Et là, je dis, ben justement, on fait une tentative de veste, et on fait le geste qui dit ah, je te like et tout. Donc why not sur internet.
Jimmy,
apparemment il faut aussi quand même garder ce qu'on appelle, enfin ce que vous appelez sa réputation amoureuse. Comment on fait? Et apparemment il y a un paramètre mignon qu'il faut conserver. Qu'est-ce que c'est?
Alors, une tentative de veste ne doit jamais nuire à votre réputation. Pratiquer la théorie de la veste, c'est pas être lourd.
Alors c'est quoi d'aller draguer dans un bar sans nuire à sa réputation, même si par principe ils ne vous connaissent pas.
Donc,
on ne fait pas de blagues lourdes.
Ouais, c'est ça. Et il faut,
qu'est-ce qu'on dit, par
pratiquer
exemple
ce qu'on appelle la paramètre mignon. Ça veut dire que votre communication, c'est dur de ne pas vous aimer parce que c'est presque mignon ce que vous dites. Et on fait ça en mettant de la sincérité et en étant d'accord d'être un peu vulnérable. Donc,
donnez un exemple. Imaginons une jeune fille.
On veut le demander pour boire un verre, ok, et on dit Anne-Sophie, c'est comme ça que t'appelles, qu'est-ce que tu fais plus tard, on boit un verre? Mais c'est horrible, rien du tout, ok. Mais si on demande avec sincérité et on est d'accord d'être un peu vulnérable en disant excuse-moi Anne-Sophie, je sais que ça se fait pas, je sais que c'est probablement non, mais je te trouve tellement intelligente, tellement créatif, tellement belle que je pense que je regretterai longtemps si je te demande pas de boire un verre avec moi.
Là, effectivement, moi, j'ai dit oui. J'allais dire oui, là, mais c'est pas pour moi, pardon. C'est très mignon. J'avoue, j'avais envie de vous dire oui. Hein,
donc. Voilà, donc c'est mignon. Donc, dans le pire des cas, Anne-Sophie, elle est flattée.
Ouais.
Ok. Et elle te dit non. Je dis, non, Benjamin, je suis en couple. Mais donc, dans le pire des cas, elle est flattée et t'as juste carrément fait sa journée. Et dans le meilleur des cas, elle te dit oui.
C'est ça. Jimmy, ça vous parle, là, hein? C'est pas mal.
Non, c'est,
hein?
Non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est tout bête, mais on se rend pas compte. Mais par contre, si on se prend 100% de veste, c'est qu'il y a peut-être un problème, non?
Ouais, si tu prends 100% de veste, ouais, il y a peut-être un problème. Donc, ça veut dire que vous n'employez pas la paramètre mignon. Parce qu'on se rend compte que au début, ceux qui pratiquent la théorie de la veste au début, à peu près 50% de ce qu'ils étaient sûrs sera non, est en fait une opportunité. Et vous le faites bien si vous tombez à peu près à 30%. Ça D'accord. veut dire que vous osez assez, mais vous n'allez pas trop loin.
Allez, un dernier petit conseil pour terminer, c'est la Saint-Valentin ce soir, on l'a déjà beaucoup dit. Ce soir, si c'est le repas, on va dire le repas de votre vie, vous avez invité quelqu'un, c'est la Saint-Valentin. Bon, il y en a là qui ont de la chance de sortir ensemble le jour de la Saint-Valentin. Je salue mon mari d'ailleurs, hein, que j'ai rencontré le jour de la Saint-Valentin, c'est vrai.
C'est trop mignon.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ce soir pour que ce soit parfait?
Oh là là, pour que ça soit parfait.
Pour on se moi, met sur son 31, ça c'est important. Hein.
On se met sur son 31 et pour moi, quand même, le mot du jour, c'est de la sincérité. C'est de la sincérité. Je veux dire que quand on se rend compte qu'est-ce qui compte dans ce vie, à la fin de notre vie, quand on réfléchit à notre vie, c'était la qualité de nos relations et la qualité de nos échanges. Donc pour moi, un super, super, super date, c'est quand vous n'avez pas arrêté d'échanger et de parler et les conversations étaient riches.
Très bien. Merci beaucoup, Annabelle Roberts,
merci à
d'être
vous,
venue
Mélanie.
Sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, La théorie de la veste chez Flammarion. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les mots du quotidien ». À la veille de la journée mondiale contre les cancers de l'enfant, on fera un focus sur les massages magiques qui peuvent faire des miracles sur ces petits patients. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, à la veille de la journée mondiale contre les cancers de l'enfant, on va faire un focus sur quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Savez-vous ce que sont les massages magiques? Ce sont des massages particuliers pour les enfants atteints de cette terrible maladie et pour leurs proches. Mais avez-vous une idée des bénéfices que cela leur procure? Benjamin Lévesque a été vous interroger sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est un peu le bisou sur le bobo, quoi.
Bah, c'est un massage qui est magique, c'est-à-dire que quand on va chez le masseur et qu'on en ressort, c'est magique, ça veut dire qu'on n'a plus mal.
Je ne pense pas que c'est un massage magique, que ce soit sexuel, mais peut-être.
Ah, c'est pas le massage au niveau des voies respiratoires de la naissance? Enfin, après la naissance, chez le kiné, un truc comme ça.
Ça doit être un placebo, alors.
C'est pour les enfants, un massage magique. Quand ils sont très malades, les enfants.
S'ils font de la chimio, peut-être que ça les... Ils ont mal, donc ils font une sorte de massage comme ça pour leur faire oublier la douleur.
Les soulager, les faire penser à autre chose, un bien-être.
Alors, on parle donc des massages magiques. Aujourd'hui, un outil qui fait partie du programme d'accompagnement à destination des enfants atteints de cancer et de leur famille, qui a été lancé en France par la Fondation La Roche-Posay en 2019. Pour en parler, on accueille dans ce studio notre reporter, Benjamin Lévesque. Alors, d'abord, Benjamin, il faut comprendre que la création des massages magiques, c'est venu pour répondre à un réel besoin.
Oui, puisque la Fondation La Roche-Posay a réalisé une étude auprès de parents d'enfants atteints d'un cancer. Et le résultat a montré eh bien, que plus de la moitié des parents, 54%, jugent la communication difficile avec leur enfant depuis qu'il est malade. Et puis ça va même plus loin, près de 70% des parents révèlent qu'ils sont en demande d'aide pour communiquer avec leur enfant ou entrer en contact physique avec lui.
Alors Benjamin, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, en tout cas, j'ai jamais entendu parler de ces massages magiques. Dites-nous en plus.
Alors les massages magiques, Jimmy, au départ, c'est un jeu de cartes conçu par des experts, notamment des socio-esthéticiennes, des infirmières, des kinés et même des danseurs. Et ce jeu, il est à destination des enfants atteints de cancer, mais aussi de tous leurs proches, les parents, les grands-parents, même aussi les frères et les sœurs. Alors pour bien comprendre comment on joue à ce jeu des massages magiques, je vous propose d'écouter Marie Terrin. Elle est psychomotricienne à l'hôpital Armand Trousseau à Paris.
On a voulu ces massages magiques avec des petits mots assez facilement représentatifs. Donc les noms des massages sont très très ludiques, comme ça ils sont apportés des enfants. Vous avez le massage locomotive, les trois cœurs, la grande plume, les pattes de papa ours. Et donc l'idée c'est effectivement d'associer une partie du corps avec un ou plusieurs types de massages. Vous avez par exemple le serpent qui s'effectue dans le dos. Et on remonte le long de la colonne vertébrale et en redescendant après les épaules, on fait des petites vagues comme les serpents quand ils se déplacent sur le sol. Et ces massages-là, ils peuvent être un petit peu stimulants, de l'ordre des chatouilles, ou un peu plus contenants, un peu plus rassurants, un peu plus enveloppants.
Et Benjamin, ce jeu-là, donc des massages magiques, ça se fait que dans cet hôpital?
Alors non, aujourd'hui, les massages magiques sont déjà utilisés dans 15 hôpitaux partout en France. Par exemple, au CHU de Nantes, celui de Saint-Étienne ou même au CHU de Limoges. Et le principe, eh bien, en fait, c'est que les parents se fassent former à ce jeu à l'hôpital pour pouvoir continuer ensuite à profiter de ses bienfaits à la maison. Et c'est ce qu'a fait Cindy, maman de la petite Juliane, 7 ans, atteinte de leucémie. Elle a vraiment vu un avant et un après massage magique.
On n'était plus les parents qui disaient à notre enfant « fais ci, fais ça, prends tes médicaments ». Parce que du coup, avant chaque prise de sang ou avant chaque soin de médecin, elle avait toujours le corps qui était très 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 tendu. Les premières fois qu'on faisait par exemple un petit cœur sur la main, au début elle était un petit peu encore tendue de sa main. Et au fil du temps, des minutes qu'on lui refaisait les petits cœurs sur la main, bah en fait, elle commençait à se détendre. On voyait vraiment la main qui s'enfonçait dans le matelas, en fait. Le fait qu'elle nous voit faire les soins, qu'elle sente sur ses bras ou sur ses jambes qu'on fasse les petits massages, vraiment, oui. Oui, ça lui permettait de penser à autre chose.
Voilà, et cette maman, Cindy, m'a même confié que du coup, maintenant, eh bien, toute la famille en profite. Les massages magiques plaisent aussi bien au petit frère de Juliane, qui a tout juste 4 ans.
Merci beaucoup Benjamin pour ce coup de projecteur donc sur cette initiative originale et très touchante au profit des enfants atteints de cancer et de leurs proches. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question d'une inégalité entre hommes et femmes et de la capacité de ces dernières à jouir parfois plusieurs fois durant l'acte sexuel. Mais d'abord, on écoute de la musique avec le chanteur Yannick Noah et son morceau intitulé Baraka.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio. Catherine Blanc qui est psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ?
Je vais très bien Mélanie, et vous ?
Mais parfaitement.
Jimmy aussi ?
Très bien, je vous remercie.
Allez, bah du coup on attaque la question du jour. La question de Thomas, un garçon. Bah, ça change un peu parce qu'on a beaucoup de filles en ce moment, j'ai l'impression. Alors la question de Thomas, je vous la lis. À l'heure de la revendication d'équité femmes-hommes, j'ai une plainte à formuler. Attention. Pourquoi les femmes ont-elles la capacité à jouir plusieurs fois dans le même acte sexuel alors que nous, les hommes, ne pouvons qu'une fois ? Catherine, d'abord, est-ce que Thomas a raison ? Les femmes peuvent vraiment jouir plusieurs fois et les hommes qu'une seule fois ?
Non, c'est pas si net que ça. D'abord, il y a des femmes qui ne jouissent pas plusieurs fois.
Qui ne jouissent jamais aussi.
Et qui ne jouissent jamais, notamment. Et puis, il y a des hommes qui sont tout à fait capables de jouir à nouveau, sans d'ailleurs, pour certains, perdre leur érection entre un acte et une éjaculation et un nouvel acte derrière. Ouais. D'autres la perdent et la retrouvent, ce qui ne pose aucun problème. Ceci étant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils s'offrent le droit, l'envie de récidiver ou est-ce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont vécu ? C'est une chose tout à fait...
Parce que pour les hommes, c'est forcément une récidive. C'est pas dans le même acte sexuel, il y a pas de...
Oui, parce que en fait, on n'est pas
c'est
fait
physiologique, quoi.
Oui, on n'est pas fait pareil et on ne fonctionne pas pareil. Et en fait, d'ailleurs, on pourrait se poser la question si ce sont vraiment plusieurs orgasmes que vivent les femmes ou si c'est le même qui redescend, une sorte de vague.
Une montagne russe.
Voilà, et elles auraient tendance à dire que ce sont plusieurs orgasmes parce qu'entre-temps, comme elles l'ont perdu, elles sont reparties dans un autre moment de jouissance. Donc en fait, se pose plutôt la question de savoir la capacité qu'a un être humain à pouvoir jouir et à s'accorder de jouir et puis après à s'accorder de recréer derrière ou pas, parce qu'on peut se contenter très bien de ce qu'on a vécu sans être obligé de faire une performance.
Oui, parce que déjà, un orgasme chez une femme,
c'est déjà pas mal.
Non, faut avant de chercher à en vouloir 3-4 un peu.
C'est top.
Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on voudrait qu'elle en ait 3-4 ? Est-ce que c'est la pornographie qui met ces images dans la tête des hommes en disant il faut qu'elle jouisse plusieurs fois alors que l'homme, la scène se termine par l'éjaculation de l'homme et puis on passe à une autre scène ?
C'est ça, c'est parce qu'en fait, l'homme, il faut mesurer son pouvoir. C'est-à-dire, si je fais jouir une femme, c'est que j'ai beaucoup de pouvoir. Et si je la fais jouir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc.
C'est une bonne simulatrice.
Voilà. Mais
c'est ça.
Mais c'est surtout qu'il se dit qu'il l'a épuisée. Parce qu'il y a une idée dans notre société, depuis la nuit des temps, hein, que la femme est insatiable. Et que donc, si on peut la faire jouir jusqu'à ce qu'elles disent stop, puisque comme son sexe, d'ailleurs on parle du sexe féminin en parlant des lèvres, donc c'est comme une bouche qui voudrait manger les hommes. Alors si on la fait jouir 1000 fois, eh bien évidemment elle aurait plus faim et elle serait enfin une femme rassasiée et non dangereuse. Donc il y a ce fantasme de l'homme puissant à pouvoir faire jouir suffisamment pour pouvoir mettre hors d'état de nuire en quelque sorte le féminin vorace.
Et en plus de ça, une relation peut être satisfaisante chez une femme, même si elle n'a pas eu d'orgasme. Elle peut prendre du plaisir sans atteindre cet orgasme que tout le monde cherche à avoir.
Bien sûr. Alors évidemment, comme dans les médias dont nous faisons partie, nous parlons d'orgasme, etc., se pose pour toutes celles qui ne le vivent pas la question de « je n'en suis pas capable, donc suis-je normale ? Et est-ce que je loupe pas quelque chose ?» Mais si on ne met pas de pression aux individus, reconnaissons les uns et les autres que c'est bon de faire l'amour, que c'est bon de se lever, de s'embrasser au sens de se prendre dans les bras et de se pénétrer, de se faire du bien, déjà dans nos contacts, des gens dans le hug que représente le contact, qui plus est quand on se mêle et s'en mêle l'un à l'autre. Et on n'est pas obligé d'atteindre en effet l'orgasme pour avoir vécu un moment d'intimité qui est puissant et qui a de la valeur, ô combien, bien sûr.
Donc il ne faut pas que les hommes cherchent absolument à faire jouir maintes et maintes fois leur compagne, c'est ça, ça ne sert à rien en fait.
Non, c'est surtout qu'ils soient là, c'est souvent que parce qu'elles elles jouissent, c'est facile de dire aussi que les femmes doivent jouir, parce qu'eux n'arrivent pas à aboutir ou à advenir. Mmh. Et derrière, ils diront, tu as vu, j'ai pu attendre autant que ça pour te le faire jouir moult fois.
Mais on en revient quand même à eux à chaque fois.
Oh, bah oui, mais je crois que de toute façon, bon, il n'est pas question de jeter la pierre, ni aux hommes ni aux femmes, je crois que tous nous arrivons dans la sexualité avec notre propre valeur narcissique et notre besoin d'éprouver notre qualité et notre valeur dans notre aptitude ou dans ce que l'on apporte à l'autre.
Jimmy ?
Vous nous avez dit lors d'une chronique précédente qu'il était normal qu'un homme, après une éjaculation, soit un peu fatigué et dorme parce que c'était physiologique. Est-ce qu'on peut avoir la même chose chez la femme qui, après avoir eu un orgasme, décide de tout arrêter en disant bon, c'est bon, moi aussi je suis non pas satisfaite ou comblée, mais je m'endors, on passe à autre chose, laisse-moi tranquille et qui ne réclame pas forcément de deuxième ou troisième round.
Bien sûr, mais je crois que, alors d'abord, elles n'ont pas toujours envie de dormir, parce que souvent, c'est plutôt une source d'excitation et de parole, etc. Là, on sent
l'homme d'expérience. Non, mais vous l'avez dit, en fait, c'est pour ça que je me souviens très bien.
c'est vrai qu'il y a dans cette façon d'envisager la sexualité féminine, toujours l'idée qu'elles auraient de l'envie, alors qu'il y a des moments, elles n'en ont plus envie. D'abord, parce que c'est devenu ultra sensible, si elles ont vécu un orgasme par exemple, ou parce que c'est laborieux pour elles et qu'elles n'en peuvent plus quand même, le rythme cardiaque, la respiration, la tête qui tourne, l'hyperoxygénation. À un moment donné, il y a une envie de faire autre chose que d'être simplement l'objet de l'excitation et de l'urgence de quelque chose qui n'advient pas chez son partenaire.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On vous retrouve la semaine prochaine. Votre émission Sans Rendez-vous, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 15h à présent. Je vous laisse avec l'équipée sauvage de Mathieu Noël qui vous attend. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui Mélanie, vous êtes obligée de rester avec moi. Je vous invite dans l'équipée sauvage. Une équipée sauvage particulière aujourd'hui. L'équipée sauvage spéciale Saint-Valentin. Avec Bérangère Krief en public. Oui, on va faire ça en public.
Merci beaucoup Mathieu. Bonne émission. Restez sur Europe 1.